Le mandat de la force multinationale est particulièrement imprécis du fait de l'urgence et du sentiment de culpabilité ressenti après le massacre. Ce n'est pas une force d'interposition acceptée par toutes les parties, même si sa première mission est de superviser le retrait israélien de la ville. Elle n'est pas non plus une force de police, bien qu'elle est censée aider les autorités libanaises légitimes à s'acquitter elles-mêmes de leurs obligations. Et enfin, aucune indication de durée n'a été fournie. Dès son retour au Proche-Orient le 25 septembre, Philippe Habib se confronte aux difficultés. Il est venu proposer un retrait simultané par étapes des forces palestiniennes, syriennes et israéliennes qui s'étalerait sur 2 mois, ce qui permettrait ensuite le départ de la force multinationale. Mais il n'a aucun moyen de dialoguer avec les représentants des Palestiniens. Assad se monte d'un scepticisme affirmé. Comment les Américains, qui n'ont pas réussi à empêcher les Israéliens d'entrer à Beyrouth-Ouest, peuvent-ils garantir un retrait israélien? Il n'acceptera de retirer les troupes syriennes que quand un gouvernement libanais vraiment libre lui demandera. Sous-entendu, ce n'est pas le cas de l'actuel. De toute façon, la présence militaire syrienne est légitime puisqu'elle a un mandat de la Ligue des États arabes. Et Israël ne doit pas récolter de bénéfices de son invasion. Il n'est pas question que la Syrie accepte un traité de paix israélo-libanais ni une présence militaire israélienne résiduelle sur le sol libanais. Et la Syrie ne négociera pas, au nom des Palestiniens, le retrait des forces palestiniennes. Ceux qui voudraient bien discuter avec les Américains, ce sont les Palestiniens de l'ONP, mais Washington s'y oppose. Le plan de Fès comprend implicitement la solution de 2 États et suscite par ailleurs l'opposition des radicaux palestiniens attachés à la lutte armée. Et Arafat reprend le dialogue politique avec le roi Hussein, le rencontrant le 9 et le 10 octobre à Amman. Le but est de rétablir ou d'établir une coordination politique pour éventuellement arriver à la constitution d'une délégation jordano-palestinienne dans le cadre d'une situation intermédiaire entre le plan Reagan et le plan de Fès. On évite d'évoquer publiquement la possibilité d'aboutir à une confédération jordano-palestinienne. Bien évidemment, la première visite d'Arafat depuis Septembre Noir en Jordanie est soigneusement encadrée pour éviter des manifestations populaires. Les relations entre l'ONP et la Syrie sont exécrables. Le Hamas reproche à l'OLP de ne pas prendre en compte les sacrifices que la Syrie a eus au Liban, en particulier dans les combats. Et attaché avant tout à son maintien au Liban, le pouvoir syrien ne veut pas d'un plan Reagan qui ne la concerne pas, ni d'un plan Habib, d'un retrait rapide et simultané. Le rapprochement jordano-palestinien l'inquiète. Et Damas soutient les opposants de la ligne d'Arafat, accusé d'avoir accepté une variante du Royaume arabe uni. Et on fait une distinction entre un Arafat avec qui les Syriens ne parlent pas et un OLP avec qui on discute. Alors, durant le reste de l'automne 82, Arafat va tenter d'obtenir du comité exécutif de l'OLP une formule rendant possible la composition d'une délégation jordano-palestinienne, tandis que Damas va dans le sens contraire. Réaliste, le roi Hussein ne voit dans le plan Reagan que la possibilité de geler la colonisation des territoires occupés. Mais la réponse israélienne est la création de 31 nouvelles implantations dans les 10 territoires. Et du coup, le roi Hussein se retire du jeu, signalant à Washington qu'il se tient en réserve tant qu'Israël n'a pas clairement montré son intention sérieuse de se retirer du Liban. Du côté israélien, il faut absolument obtenir le traité qui justifierait l'invasion israélienne et les sacrifices endurés. Dans la perspective de Begin et de Sharon, le traité ne doit pas être un accord entre égaux, mais une mise sous tutelle israélienne du Liban. Le retrait des Syriens et des Palestiniens doit être complet. Et les Israéliens reprochent aux Américains d'avoir mis en garde Bachir Gemayel devant un tel accord et pensent qu'Amin Gemayel, beaucoup plus faible, cédera plus facilement. Dès avant la prise de fonction d'Amin Gemayel, des émissaires israéliens lui ont proposé de prendre comme référence les relations israélo-iraniennes d'avant la révolution islamique. Des liens étroits en matière de sécurité et de commerce, une mission israélienne à Beyrouth, mais pas de traité en bonne et due forme et des relations diplomatiques officielles. En résumé, une normalisation de facto. Devenu président, Amin Gemayel cherche à gagner du temps. Il envisage une sorte de commission d'armistice de Rhodes, élargie aux représentants des affaires étrangères des deux pays, et refuse de rencontrer directement les émissaires israéliens, tandis que Sharon essaye de le déstabiliser en jouant sur ses contacts anciens avec les responsables des forces libanaises. En fait, Amin Gemayel mise tout sur la politique américaine qui lui permettrait de prendre des distances par rapport aux Israéliens. Et donc sa visite aux États-Unis le 18 octobre, vous voyez comme il était jeune à l'époque, Amin Gemayel. Et si Wikileaks avait existé en 1982, il aurait su que les Américains l'avaient surnommé Travolta. Mais comme il n'y avait pas de Wikileaks, il n'était pas au courant. Donc, s'adresse à l'Assemblée générale de l'ONU et demande un renforcement des pouvoirs de la FINUL. Il s'appuie sur la légalité internationale définie par les différentes résolutions de l'ONU. Puis il est chaudement reçu par Reagan et en tire la conviction que Washington le soutiendra jusqu'au bout. Plus concrètement, les États-Unis vont aider la reconstruction de l'État libanais, en particulier de son appareil militaire. Donc la décision essentielle des États-Unis, c'est d'envoyer des conseillers militaires américains préparer la remise à niveau de l'armée libanaise, ce qui va entraîner une dangereuse confusion entre le contingent militaire américain de la multinationale et les militaires américains encadrant l'armée libanaise. Alors, sur le retour, Amin Gemayel rencontre François Mitterrand, puis ensuite Jean-Paul II. À Washington, Draper a communiqué les décisions du Conseil des ministres d'Israël prises le 10 octobre. Israël recherche un traité de paix avec le Liban et propose l'ouverture de négociations immédiates pour le retrait de toutes les forces étrangères du Liban. Les premiers à sortir seront les terroristes de l'ONP, puis les armées syriennes et israéliennes de façon simultanée. Les prisonniers israéliens et les corps de soldats tués ou disparus devront préalablement être livrés aux autorités israéliennes. Des arrangements de sécurité seront établis pour garantir que le Liban ne servira plus de nouveau comme base d'action hostile contre Israël. Ces arrangements comprennent la constitution d'une zone de sécurité israélienne à l'intérieur du Liban, une représentation d'État à État, une normalisation des relations, la liberté de passage aux frontières et l'établissement d'un organisme de supervision. Alors, en même temps, le harcèlement de l'armée israélienne par divers mouvements de guérilla s'intensifie, tandis que dans le Chouf, les violences reprennent entre Druzes et Maronites, et les Israéliens semblent dans l'incapacité de décider pour qui choisir dans les montagnes de Chouf entre Druzes et Maronites. D'autant plus que les Druzes israéliens se mobilisent en faveur de leur corps légionnaire libanais. Begin et Sharon ne veulent pas d'une participation américaine aux négociations israélo-libanaises. Pour l'équipe d'Amin Gemayel, les propositions israéliennes sont inacceptables, car ces arrangements de sécurité sont en fait un vrai traité de paix, comprenant frontières ouvertes, normalisation et représentation, ce qui conduirait à l'expulsion du Liban du monde arabe. Les Libanais se tournent vers les Américains pour qu'ils se fassent les défenseurs des intérêts libanais auprès des Israéliens. Et les Américains expliquent que le pouvoir légitime libanais n'est pas en mesure de traiter avec trois armées étrangères plus importantes que l'armée libanaise, qui contrôle chacune plus de territoires que le gouvernement de Beyrouth. Par ailleurs, chacune des forces d'occupation, la syrienne, la palestinienne et l'israélienne, sont en relation avec les forces politiques libanaises locales, ce qui fait un écheveau de relations politiques extrêmement compliqué, dans lequel le pouvoir légal libanais n'est qu'un l'un des nombreux acteurs de la scène libanaise. Alors, l'idée américaine de faire une armée libanaise forte, sous le commandement du général Ibrahim Tanous, qui veut construire une armée de... une armée de 60 000 hommes d'ici 1985. On recrute massivement et on formativement de nouveaux officiers avec des armements américains et des tanks jordaniens. La nouvelle répartition confessionnelle est 60% de musulmans et 40% de chrétiens. Mais il y a cette confusion du genre entre les militaires américains qui sont auprès de l'armée libanaise et ceux qui sont dans la multinationale. Alors, dans l'attente de la reprise de la négociation, israélien et libanais échangent des propositions par l'intermédiaire des Américains qui veulent qu'on leur donne la priorité au dossier libanais, c'est-à-dire donc qu'on s'occupera du plan Reagan qu'une fois le dossier libanais réglé. Du coup, c'est une raison de plus pour les Israéliens de retarder, parce que ça retarde d'autant la discussion sur le plan Reagan. Sharon, lui, veut absolument préserver les gains stratégiques de sa guerre en contournant l'intermédiaire américain, et il cherche donc à s'adresser directement à toute une série d'interlocuteurs libanais court-circuitant le régime d'Amin Gemayel, ce qui met en rogne les Américains, parce que les Américains misent tout sur Amin Gemayel. À la mi-novembre, dans la volonté de consolider un état de fait, la frontière israélo-libanaise est officiellement ouverte. Les produits israéliens inondent le marché des régions occupées, voire au-delà. Agriculteurs et commerçants libanais accusent les Israéliens de vendre des prix au-dessous des coûts de production. Si ces mesures profitent immédiatement à l'économie israélienne, elles ont pour conséquence d'aliéner durablement la population paysanne chiite du Liban Sine qui ne peut plus vendre ses produits. Mais le dumping économique israélien a pour contrepartie l'arrivée massive en Israël des drogues libanaises, en particulier du hashish de la Mecca. Et dans ce domaine, il n'y a aucun problème particulier. Les différentes milices, de quelque bord qu'elles soient, collaborent au trafic et la mafia israélienne prend sa part à l'arrivée. Au moins, il n'y a pas d'opposition confessionnelle dans ce genre de questions. Pendant ce temps, la situation militaire israélienne se dégrade. Le 11 novembre 1982, l'immeuble qui sert de poste de commande à l'armée israélienne à Tir et aussi de centre d'interrogation et de détention des suspects arabes explose. Le bilan est de 75 Israéliens tués, dont 9 officiers de Shin Bet, vous voyez ce qui reste du bâtiment sur la photo, et 14 détenus arabes tués. Les autorités demandent qu'il s'agisse d'un attentat et évoquent une fuite de gaz, ce qui paraît peu crédible. Ça permet de sauver la face et de ne pas avoir à exercer de représailles contre les positions syro-palestiniennes dans la Beka, et un deuil national est fixé en Israël pour le 14 novembre. Le commandement militaire de la résistance nationale libanaise revendique l'opération. Ultérieurement, le Hezbollah affirmera qu'il s'agissait là de sa première opération martyre. Il fournira même une vidéo de la préparation de l'attentat. La discrétion sur le moment s'explique par le fait que le martyr était originaire d'un village occupé par les Israéliens et que l'on voulait éviter les représailles israéliennes sur sa famille. Et là, on voit toute la différence entre la rhétorique et la stratégie du Hezbollah dès le début, qui ne cherche pas la publicité, contrairement aux attentats palestiniens, où on indique tout de suite qui a commis l'attentat, etc. Du côté de Hezbollah, c'est l'anonymat. Au-delà, c'est toute la stratégie de la clandestinité des fondateurs du mouvement qui est en jeu. Ils ont vu comment le Shin Bet utilise des informateurs recrutés par différents moyens. Le secret qui passe par l'absence de publicité est le meilleur moyen d'éviter les infiltrations. Les premiers militants et combattants de Hezbollah sont sélectionnés avec soin et vivent dans le plus strict anonymat. Ils s'entraînent au combat dans la Bekaa, sous la supervision des gardiens de la révolution iranien, arrivés au mois de juin. Très souvent, les membres d'un groupe appartiennent à un même clan familial, ce qui renforce la solidarité et rend difficile l'infiltration. De surcroît, l'organisation recherche l'efficacité et non la publicité, contrairement aux organisations palestiniennes qui sont réputées pour leur communiquer enflant démesurément des succès supposés. Le même jour, ça c'est pour avoir le rappel de la situation politique mondiale, on annonce la mort de Léonid Brejnev. Yuri Andropov le succède le lendemain. Assad, Kadhafi et Arafat sont les seules personnalités arabes de premier rang à assister aux funérailles du leader soviétique. Assad reçoit tous les honneurs et a droit à un entretien avec Andropov, tandis qu'Arafat est mis dans une position protocolaire humiliante pour lui. Il est le dernier des représentants des mouvements de libération nationale, ce qui indique que la priorité est nettement donnée à la Syrie. Rien que tel que les régimes communistes pour avoir le sens du protocole. Les attentats contre les forces d'occupation sont maintenant sur un risque presque quotidien. 17 par mois au début, surtout dans le Liban central et moins dans le sud. Saïda est le centre d'une guérilla particulièrement active. Ces opérations sont dues pour l'essentiel à des militants venus de la gauche libanaise, en particulier les marxistes. Le Parti syrien national social, PSNS-XPPS, joue aussi un rôle important. L'ensemble des opérations est revendiqué par le Front de la Résistance Nationale Libanaise, FNRL, ce qui marque bien son identité proprement libanaise, même si des Palestiniens y participent. Ce qui ne trompe pas est le caractère sobre des communiqués du FNRL, qui donne des informations presque documentaires sur les opérations effectuées, contrastant au style habituel des déclarations de ce genre, en particulier celle des organisations palestiniennes. C'est très intéressant. Après juin, enfin, à partir de l'automne 82, on a un vrai changement dans la rhétorique des communiqués des organisations. On sent qu'on bascule dans un autre monde. C'est ce qu'indique ce changement de rhétorique. Alors, les Israéliens multiplient les ratissages et les chasses à l'homme, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. Si Hamal avait refusé de combattre en juin 82, se félicitant même de l'élimination des forces communes au Liban Sud, Hamal n'est pas prêt à laisser le Liban Sud à l'ALS, ce qui rend impossible tout accord entre Hamal et les Israéliens. Les Israéliens tentent de créer des milices chiites locales, ce qu'on appelle la garde nationale pour les villages du Sud, qui serait sous le contrôle de l'ALS et des forces d'occupation. C'est largement un échec, les notables des villages refusant tout ce qui pourrait sembler être une subordination à la milice de Sarnhadad. En janvier 83, les Israéliens tentent de créer l'équivalent des ligues de villages de Cisjordanie en établissant l'organisation pour un Sud uni, mais ne réussissent à recruter que des délinquants et autres déclassés. Et pourtant, la politique israélienne a besoin de pouvoir constituer ses forces locales pour faire fonctionner les futurs accords de sécurité. Mais dès la fin de 1982, il est clair que les milices pro-israéliennes, chrétiennes ou chiites sont coupées des forces politiques essentielles de leur communauté et ont contre elles ce qui reste de l'autorité légale du pays. Ça, c'est une question importante. Les Israéliens sont piégés par la situation du Liban. Ils sont pratiquement sommés dans chaque zone d'occupation, de choisir avec qui ils travaillent. Mais à partir du moment où ils travaillent avec un camp, ils ont automatiquement tous les autres camps contre eux. Donc ils sont perdants, je veux dire. Ils ne sont pas dans un espace homogène. C'est dans ce contexte que se déroule dans la seconde quinzaine de novembre un épisode assez confus, puisque les versions israéliennes et libanaises divergent largement. Ce que l'on peut savoir, c'est qu'un proche d'Amin Gemayel a négocié directement avec les Israéliens, disant être mandaté dans ce sens par le président, mais n'ayant aucun document d'accréditation. Il propose la définition d'un accord de principe qui devrait rester secret, sinon les membres musulmans du gouvernement s'y opposeraient. Et dans cet accord, il cède sur une bonne part des demandes israéliennes tout en étant ferme sur d'autres. Et un certain nombre de points ne sont toujours pas réglés. L'idée essentielle est de traiter de façon bilatérale les relations israélo-libanaises et de laisser à Habib le soin d'obtenir le départ des Syriens et des Palestiniens. C'est, semble-t-il, la première fois qu'on a dans une négociation israélo-arabe ce qu'on appelle en langage une deuxième voie ou une deuxième piste, track two, dans le jargon diplomatique du Moyen-Orient, c'est-à-dire une négociation parallèle à côté de la négociation officielle. Alors Sharon exulte, un tel accord justifierait la guerre et ferait oublier Sabra et Shatila. Le 9 décembre, Habib déjeune avec Reagan et explique que la situation se détériore rapidement, que les Palestiniens et les Syriens se renforcent et qu'en conséquence, les Israéliens ne se retireront pas, mais faute de retrait israélien, les Arabes ne participeront pas à la négociation de paix et qu'il ne faut donc agir tout de suite. Et Reagan autorise Habib à dire à Begin que l'intransigeance d'Israël risque de lui coûter ses relations spéciales avec les États-Unis et leur soutien. Mais Reagan doit faire face au Congrès et en commission, le Sénat rajoute 450 millions de dollars à l'aide prévue à Israël, ce qui se montait déjà à 2,5 milliards de dollars. L'administration Reagan n'a pas pu s'y opposer. Autrement dit, le moyen de pression que Reagan donne à Habib n'existe pas en réalité. Alors, Habib a à l'esprit un plan dans la continuité de son action de l'été 1982, une déclaration mutuelle de non-belligérance entre le Liban et Israël, des contacts entre les deux pays au niveau de fonctionnaires et non de ministres, un retrait complet de l'armée israélienne du sol libanais. La sécurité du Liban Sud serait assurée par l'armée libanaise, la FINUL et la force multinationale, Israël conservant un droit de survol aérien. Et les Libanais fixeraient les conditions de circulation de personnes et de marchandises à travers la frontière. Alors le 16 décembre, Habib est à Jérusalem et on le laisse exposer ses positions, puis Begin laisse la parole à Sharon qui triomphalement rapporte les négociations avec l'émissaire libanais. De façon quasi insultante pour ses interlocuteurs américains, il explique que l'affaire est réglée et qu'ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Conservant son calme de diplomate professionnel, Habib demande quelques précisions, puis annonce sa décision de partir immédiatement pour Beyrouth pour avoir des explications. Exultant, Sharon a communiqué à un journaliste israélien le contenu de l'accord. La censure laisse passer et le texte est publié le 17 décembre. Alors, le même jour, Habib est à Beyrouth et est reçu par Amin Gemayel. Il exprime sa colère et annonce que puisque l'affaire est conclue, les Américains vont partir. Amin Gemayel lui répond qu'il connaît bien le texte, mais qu'il a refusé de le signer. Ce n'est qu'un document de travail, et comme les Israéliens l'ont rendu public contrairement aux engagements, il n'a plus de valeur. Cela prouve d'ailleurs que l'on ne peut faire confiance aux Israéliens pour une négociation secrète. Donc, après une discussion tendue entre Américains et Libanais, on élabore un texte de compromis, ce qu'on appelle en langage diplomatique une note verbale, c'est-à-dire un texte non signé, adressé au gouvernement israélien, le gouvernement libanais est prêt à commencer les négociations sans délai. Le texte soumis précédemment peut être considéré comme une base pour la délégation israélienne, mais ne peut être accepté comme définissant les résultats des négociations, et que le Libanais exige que les Américains participent à la négociation. Donc Sharon, à son tour, est pris à contre-pied par la volte-face d'Amin Gemayel, et à son tour, il se précipite à Beyrouth, mais les Libanais refusent de signer le document, et Amin Gemayel y voit un procédé pour lui faire perdre l'appui des musulmans. Donc, Habib a obtenu que les Américains participent à la négociation, mais que la négociation maintenant doit être officielle, puisqu'on a une base définie entre les parties. On se met d'accord pour que les deux délégations, ceux qui seront dirigés au niveau d'ambassadeurs, David Kimray pour les Israéliens, Antoine Fatal pour les Libanais, Draper pour les Américains, se déroule alternativement à Khaldeh en territoire libanais et à Kiryat Shmoneh en territoire israélien. La première session se tient au Liban le 28 décembre. Les Libanais s'en tiennent à l'idée d'une commission d'armistice au pouvoir élargi. Les Israéliens rejettent toute idée de revenir à l'armistice de Rhodes et exigent d'abord la normalisation. Les Américains se tiennent dans une position de passivité, attendant que les uns et les autres démontrent qu'ils sont dans une impasse et que donc l'intervention américaine redevienne indispensable. Alors, comme il se doit dans ce genre de choses, les premières séances sont consacrées à la définition de l'ordre du jour. Et c'est finalement les Américains qui arrivent à définir l'ordre du jour, puisque les uns et les autres sont incapables de s'entendre sur le contenu de l'ordre du jour. Vous vous rappelez, en 68, on votait pour savoir s'il devait y avoir un vote. Là. Bon, là, c'est un peu la même méthode, diplomatiquement parlant. Alors ensuite, maintenant qu'on a un ordre du jour, on décide la création de sous-commissions pour étudier chacun des sous-chapitres de l'ordre du jour. Autrement dit, on n'a pas progressé du tout. Et donc Habib attend que la situation de blocage soit bien établie pour qu'il puisse relancer son propre jeu diplomatique. Mais son crédit est au plus bas. Après Sabra et Shatila et le document Sharon, il n'a plus confiance envers le gouvernement israélien, et en même temps, les Israéliens le considèrent comme pro-arabe. Inversement, Damas l'accuse d'être pro-israélien et d'avoir manqué à ses premiers engagements. Donc, il devient de plus en plus disqualifié par rapport au parti. Et au Liban, Druze et Maronite continuent à s'opposer dans la montagne libanaise, tandis que l'armée israélienne voit une montée continue des attentats dans la zone d'occupation. Du coup, l'armée israélienne essaye de se rapprocher de l'aéroport de Beyrouth, mais d'empiéter sur le contingent de l'armée américaine, de la force multinationale, ce qui provoque une forte tension entre les marines américaines de l'aéroport et les Israéliens. À certains moments, les marines sont prêtes à tirer sur les Israéliens pour les empêcher de progresser. Les soldats professionnels, que sont les marines, méprisent l'armée de contingent israélien avec son manque de tenue, leur débraillé. Ils ne supportent pas le non-respect des engagements pris et considèrent que la réputation militaire israélienne repose avant tout sur la médiocrité de leur adversaire. En plus, les Américains n'acceptent pas les méthodes de combat des Israéliens, Un tir à partir d'un village contre un convoi provoque une mitraillade sans discrimination contre l'agglomération, ou la tactique dite du reconnaissance par le feu, qui consiste à tirer contre ceux qui peuvent être considérés comme une menace potentielle. De ce fait, tout véhicule se garait sur la route Beyrouth-Saïda et est immédiatement détruit par un tir d'obus. Bon, les Américains se rendront compte plus tard en Irak ou en Afghanistan qu'ils sont contraints à peu près aux mêmes méthodes, pour des résultats d'ailleurs aussi équivalents. Donc, la tension est forte sur le terrain entre les militaires américains et les militaires israéliens. Et puis, de l'autre côté, le réarmement de l'armée syrienne s'accélère et maintenant, les Syriens sont dotés des matériels les plus modernes, soviétiques, en particulier des missiles sol-air SAM-5 qui, s'ils sont stationnés sur le territoire syrien, couvrent une bonne partie de l'espace aérien libanais. Et donc, ça menace directement l'aviation israélienne au-dessus du Liban, mais les Syriens sont dans l'endroit, puisque les rampes de missiles sont sur le territoire syrien. Et dès le début 83, le potentiel militaire syrien est supérieur à celui de l'armée syrienne avant juin 82, à cause du réarmement accéléré que l'Union soviétique a opéré. Le 8 février 1983, le rapport Kahan est rendu public. On y blâme l'indifférence du Premier ministre sur les événements de Beyrouth, mais on fait porter la responsabilité personnelle indirecte des massacres sur Ariel Sharon, Eitan, le chef des services de renseignement militaire, et le général Yaron. La notion de responsabilité indirecte se comprend entre le concept ancien de péché d'omission et le principe moderne de prévention, c'est-à-dire le fait qu'on a là un moyen de savoir et que l'on n'a rien fait, crée une responsabilité définie comme une responsabilité indirecte. On est là au centre des problématiques contemporaines, au sens large du droit contemporain. Sharon refuse de démissionner et se pose en victime des États-Unis, mais le 10 février, par 16 voix contre une, celle de Sharon, le gouvernement israélien accepte les résolutions du rapport Kahan et Sharon est contraint de démissionner de ses fonctions de ministre de la Défense, mais reste ministre sans portefeuille. Le 14 février, l'ambassadeur d'Israël à Washington, Moshe Arens, lui succède au ministère de la Défense. C'est un ancien de l'Irgun, technocrate de formation, qui a fait une première carrière dans l'aéronautique. On lui reconnaît une grande culture et une courtoisie permanente, ce qui change considérablement et agréablement par rapport à Sharon. Mais c'est aussi un faucon déterminé, qui a voté comme député contre les accords de Camp David et qui a refusé en 1980 le portefeuille de la Défense pour ne pas avoir à superviser le démantèlement des colonies du Sinaï. Il est néanmoins très apprécié des Américains qui trouvent que c'est une personnalité reposante par rapport à Sharon. Les Occidentaux félicitent Israël pour ses procédures démocratiques qui aboutissent à une reconnaissance de responsabilité indirecte et à quelques démissions. La presse arabe y voit essentiellement une opération de relations publiques destinée à redorer le blason d'Israël sans remettre en cause sa politique. Du côté palestinien, Arafat n'a pas réussi à réunir un consensus et s'en tient à la formule reconnaissance de toutes les résolutions de l'ONU. Il amorce un rapprochement avec l'Égypte pour faire contrepoids à la Syrie. Moubarak ne doit pas lui demander de reconnaître unilatéralement Israël et il ne lui demandera pas de renoncer aux accords de Camp David. Il reçoit publiquement des pacifistes israéliens qui acceptent le programme dit des deux États. De son côté, Damas organise un nouveau front du refus contre la politique défaitiste d'Arafat. Au moins grâce à la puissance de l'opposition, palestinienne, Arafat peut se vanter dans la presse française de ne pas être un chef d'État arabe élu avec 99,99% des voix. C'est les 89 magiques du système politique arabe, hein. 99,99. Je rappelle que dans l'histoire, seul Saddam Hussein a eu 100%. Juste quelques semaines avant sa chute. Sa grande arme est de plaider l'unité palestinienne, encore plus indispensable en temps de crise pour assurer la survie de l'OLP. En janvier 1983, il se rend à Moscou et obtient le soutien d'Andropov pour le projet d'autodétermination palestinienne au sein d'une confédération jordano-palestinienne, ce qui correspond à la traditionnelle position soviétique d'une solution politique de la question palestinienne. Mais Moscou ne veut pas choisir entre l'OLP et la Syrie. Le 16e Conseil national palestinien se tient à Alger à partir du 14 février 1983. Arafat justifie sa ligne politique, combinant la lutte armée et l'action. Nous ne combattons pas pour combattre, nous ne refusons pas pour refuser, mais nous combattons pour la liberté de notre pays, pour notre dignité. Nous refusons toute atteinte de près ou de loin à nos droits nationaux inaliénables. Nous affirmons également qu'il ne peut y avoir de solution de stabilité ou de paix au Proche-Orient en niant les droits du peuple palestinien. Nous sommes les prédicateurs d'une paix basée sur la justice et la légalité internationale, dont les fondements seront la réalisation des droits inaliénables du peuple palestinien au retour à son pays, à l'autodétermination et à l'établissement d'un État indépendant sur son territoire national. Notre option vers la confédération avec le peuple frère de Jordanie n'est qu'une expression puissante de notre foi dans l'unité arabe globale. La rhétorique générale des débats reste militante. On condamne le plan Reagan, mais non le plan arabe de Fès, sauf chez les pro-syriens. Et une nouvelle fois, Arafat se révèle un maître de la manœuvre parlementaire, si on peut dire, réussissant à se constituer une large majorité en jouant sur une série d'ambiguïtés de vocabulaire. Donc, la ligne politique, c'est que le plan de Fès est le seuil minimal pour l'initiative politique des États arabes. Celle-ci doit aller de pair avec l'action militaire et tout ce qu'elle requiert, et cela pour équilibrer le rapport de force en faveur de la lutte des droits palestiniens et arabes. Donc, on a une rhétorique qui mélange la solution politique et la poursuite de la lutte armée. Donc Arafat a réussi à conserver sa marge de manœuvre au grand dépit des opposants soutenus par la Syrie et continue de se rapprocher des modérés arabes, c'est-à-dire la Jordanie, l'Égypte et l'Arabie saoudite, qui se font l'intermédiaire entre lui et les Américains, puisqu'il ne peut pas dialoguer directement avec les Américains. Les Européens, pour la plupart, eux, plaident pour une double reconnaissance simultanée entre Israéliens et Palestiniens. Mais Washington n'est pas prêt ou n'a pas les moyens nécessaires pour une telle solution. Mais tous considèrent qu'Arafat est un partenaire indispensable, maintenant ou dans le futur, ce qui lui donne des garanties pour sa survie politique. Avant d'aborder la phase décisive du dialogue avec le roi Hussein, le chef de l'OLP fait une tournée des pays arabes du Golfe afin de s'assurer de leur soutien. Puis ensuite, il rencontre le roi Hussein, mais on ne fait pas de progrès, tout le monde étant obsédé par la situation au Liban. Et de ce fait, une nouvelle fois, le roi Hussein se retire du jeu en signalant aux Américains que les conditions ne sont pas encore prêtes pour une participation à une éventuelle discussion sur la base du plan Reagan. Alors l'administration Reagan fait porter aux Arabes la responsabilité de l'échec d'un plan qui a d'abord été refusé par les Israéliens. La crédibilité de l'administration est remise en cause par le fait qu'il n'a pas le contrôle du Congrès. Le Congrès qui, par exemple, menace de sanctions économiques la Jordanie si elle n'entre pas dans la ligne de Camp David. Donc, sans Roy Hussein et sans Palestiniens, les Américains appellent à un plan Reagan fondé sur d'hypothétiques Palestiniens dont on ne connaît pas l'existence. Les difficultés internes du mouvement palestinien sont bien révélées par la mort d'Issam Sartawi. Cette colombe palestinienne avait été interdite d'expression lors du 16e Congrès national palestinien. Au moment même où le roi Hussein se retire de la négociation, Sartawi est assassiné au Portugal lors du congrès de l'Internationale socialiste, le 10 avril 1983. L'opération est revendiquée par le groupe Abou Nidal pour l'OLP. C'est un nouvel assassinat de cadres dirigeants commandité par Israël qui doit manipuler d'une façon ou d'une autre le groupe Abou Nidal. Ça a toujours été le refrain de l'OLP. Abou Nidal est manipulé par les services israéliens. Ce qui ne veut pas dire que ce soit vrai, mais en tout cas, c'est toujours été la position de l'OLP. Les réalistes arabes disent qu'il faut agir le plus vite possible avant que les progrès de la colonisation des territoires occupés rendent les choses irréversibles. Mais dans les territoires, le plan Reagan n'a été accepté qu'à condition du gel de la colonisation qu'elle promettait. Mais comme les Israéliens ne sont pas engagés dans le gel de la colonisation, l'échec est rapide. Et les tensions sont relativement fortes, surtout autour des lieux saints, Hébron avec le tombeau des patriarches, et le Haram et Shérif, mont du Temple, à Jérusalem. Un incident significatif montre la dégradation psychologique dans les territoires. À la fin mars 1983, à Jénine, en Cisjordanie, plusieurs dizaines de jeunes filles palestiniennes montrent des symptômes divers d'empoisonnement, évanouissement, vomissement, maux de tête. On a rapidement plusieurs centaines de cas. On parle d'inhalation de gaz toxiques, voire d'empoisonnement par poudre. L'OLP accuse les clans terroristes israéliens d'avoir commis ce crime ignoble. Arafat va jusqu'à accuser l'ennemi sioniste d'intoxiquer les lycéennes et de contaminer l'eau potable pour stériliser les femmes palestiniennes. Les autorités israéliennes imposent un couvre-feu et affirment contradictoirement que des éléments anti-israéliens sont à l'origine des empoisonnements et qu'il s'agit là d'une psychose collective. Cette dernière explication est certainement la plus probable et révèle la peur provoquée par la politique israélienne et les dénégations des autorités d'occupation promptes à parler d'antisémitisme compliquent la situation, puisque l'empoisonnement est une vieille thématique de l'antisémitisme. Autrement dit, chaque parti vit les événements immédiats dans la grille victimaire de sa propre histoire, les Israéliens à travers l'antisémitisme, les Palestiniens à travers le refoulement de la population. Une enquête médicale américaine indépendante tranchera à la fin avril sur la nature psychogénique de l'épidémie. Il n'y a eu ni empoisonnement, ni simulation. La journée de la Terre, le 30 mars, se déroule avec la violence habituelle, un mort et de nombreux blessés. Alors, comme il s'en était engagé auprès d'Habib, Reagan, lors de la veille de la publication du rapport Kahan, critique publiquement le retard pris par les Israéliens dans les négociations avec les Libanais et reconnaît les Israéliens comme techniquement étant des forces d'occupation. Ce qui signifie juridiquement, selon la législation américaine, que les Israéliens ne peuvent pas utiliser les armements américains dans une situation de force d'occupation puisque c'est un usage strictement défensif. Donc c'est une menace juridique par rapport aux Israéliens. Alors par ailleurs, il y a d'autres querelles, en particulier entre Weinberger et les Israéliens. Weinberger refuse les conditions posées par les Israéliens sur le partage des informations sur l'utilisation des armements à l'épreuve de combat de juin 82, les Israéliens exigeant un droit de veto sur la transmission à des membres de l'OTAN et à une participation à la fabrication au bénéfice de leurs éventuelles applications dans de nouveaux systèmes de défense. Les Israéliens accusent le secrétaire à la défense de partialité envers les Arabes et de ne pas prendre en compte les exigences de la sécurité israélienne. Ben Berger répond en rendant publique une lettre du commandant du contingent américain à Beyrouth, se plaignant du harcèlement permanent de ses hommes par les soldats israéliens, ce qui les met en danger, le tout pour des raisons politiques peu claires. Clairement, les Américains soupçonnent les Israéliens de vouloir affaiblir le rôle de la force multinationale et des forces de l'ONU afin de faire de la combinaison de l'armée israélienne et des milices de Sadr-Hadad le seul instrument possible pour les accords de sécurité. Mais sans céder sur l'essentiel, Moshe Arendt multiplie les mesures de conciliation, ce qui améliore le climat des relations. Il cède sur la question du renseignement et promet que le harcèlement des troupes américaines à Beyrouth va cesser. Les États-Unis annoncent aussitôt leur intention de vendre à Israël 200 missiles RR Sidewinder, et on en revient à l'illusion habituelle que rassurer Israël sur les moyens d'assurer sa sécurité permettra d'obtenir des concessions de la part de l'État hébreu. Mais l'aide accordée sert aussi de moyen de pression sur la Syrie. De plus, les Américains souhaitent renforcer la position de Moshe Arendt à l'intérieur du gouvernement israélien. Le 15 avril, le communiqué israélien chiffre les pertes israéliennes depuis le début des opérations à 463 tués et 2509 blessés chez les soldats. De leur côté, les Américains découvrent un nouvel ennemi. Le 16 mars 1983, dans la banlieue sud de Beyrouth, trois soldats sont blessés dans un attentat à la grenade. L'attaque contre les forces d'occupation américaines, entre guillemets évidemment, est revendiquée par l'organisation du djihad islamique, organisation jusque-là inconnue. Alors, les discussions israélo-libanaises portent sur les arrangements de sécurité, c'est-à-dire sur la place à accorder à Sadr-Hadad au sud, et à la normalisation des rapports, c'est-à-dire avant tout la question des relations commerciales. Les Libanais se plaignent que l'entrée libre des produits israéliens au Liban provoque l'interdiction des produits libanais dans les autres pays arabes, puisque les autres pays arabes ne veulent pas de produits soupçonnés d'origine israélienne. Et aux Syriens conditionnent leur éventuel retrait à un retrait préalable des Israéliens. Pour sauver la situation, Reagan adresse un message à Assad à l'occasion de la fête nationale syrienne le 17 avril, appelant à des négociations élargies au Proche-Orient sur la base de la résolution 242, qui s'applique à la Cisjordanie, à la bande de Gaza et au Golan, mais c'est un peu tard pour intégrer le Golan dans le plan Reagan. La volonté israélienne de mettre le Liban Sud sous la tutelle de l'ALS, sous forme de milice de village, se heurte à l'opposition résolue de la communauté chiite majoritaire. Dans la seconde quinzaine de mars, l'arrestation d'un religieux chiite militant, Raheb Harb, qui prêche la non-coopération avec les forces d'occupation, met le feu aux poudres. La répression des manifestations populaires de protestation fait plusieurs blessés. Les Israéliens accusent un groupe de religieux chiites derrière l'agitation. Ils ne se trompent pas. À Baalbek, dans la Bekaa, où s'entraînent les radicaux sous la supervision des gardiens de la Révolution, un jeune religieux, comme Hassan Nasrallah, se distingue par la virulence de son discours, je cite, l'arrestation de Sheikh Harb s'inscrit dans le cadre de la vague de répression dirigée contre les musulmans du Liban, car l'esprit roméniste qui les habite menace les intérêts de certains. Sous intervention américaine, et devant la pression populaire, le Cher est libéré le 3 avril après un sit-in géant regroupant une bonne partie de la population chiite du Liban Sud. Face aux attaques diverses et à l'hostilité de la population, la nervosité des soldats israéliens s'accroît. Ils sont prompts à tirer devant les manifestations d'hostilité, ce qui provoque de nouvelles haines et accroisse le camp de ceux qui appellent à la résistance contre l'occupation. Si des éléments islamistes avaient participé aux premières activités de la résistance contre l'occupation, il est maintenant clair qu'en milieu chiite, ils jouent un rôle de plus en plus important. Il est difficile de dater précisément le moment d'émergence du Hezbollah. En un sens, il existe depuis plusieurs années avec l'implantation du mouvement chiite révolutionnaire irakien Al-Darwa. Plus précisément, l'invasion israélienne de juin 1982 a entraîné la formation du Rassemblement des religieux musulmans sous le patronage de Sayyid Hussein Fadlallah, un religieux dont la popularité est très grande dans le milieu populaire. Fadlallah appelle à l'action révolutionnaire d'une avant-garde en liaison avec les masses populaires, c'est-à-dire du pur discours léniniste. Devant la trahison ou la lâcheté des régimes arabes en place, c'est aux Libanais et aux Palestiniens de prendre leur destin en main et de combattre l'occupant israélien. De leur côté, les Iraniens ont encouragé la scission d'Amal, accusé de collaborer avec les Gemayel, et la formation d'un mouvement dissident, Amal islamique, dans la Bekaa, sous la direction d'Hussein al-Moussaoui. C'est la conjonction entre ces différentes forces, les anciens militants du Darwa, les mouvements d'Amal islamique qui représentent essentiellement les militants de la Bekaa, les militants de Beyrouth qui sont dans la mouvance de Fadlallah, que naît probablement entre à la fin 1982 et début 1983 le Hezbollah. L'élément structurant est la présence d'un certain nombre de religieux qui ont fait leurs études à Najaf en Irak et qui sont maintenant dispersés entre le Liban, l'Irak où ils sont soumis à une impitoyable répression, et en Iran. Ce n'est pas en soi l'exportation de la révolution iranienne, mais plutôt une coalescence de forces issues de la même matrice que le pouvoir révolutionnaire iranien structure. Les fondateurs se sont attachés à une stricte clandestinité et au lancement d'opérations spectaculaires revendiquées par des organisations prête-nom. Inévitablement, l'attention publique va être attirée par la personnalité puissante de Fadlallah, mais l'intéressé va systématiquement démentir tout lien organisationnel entre lui et la mouvance de Hezbollah, probablement aujourd'hui à juste titre. C'est l'avis actuel des experts sur le sujet. Ce qui est incontestable, c'est que beaucoup des disciples de Fadlallah appartiennent au parti de Dieu et que l'apport doctrinal du Cher est essentiel. Mais le religieux se veut plus une source d'inspiration que le chef d'une organisation révolutionnaire collective. Dans ses déclarations publiques, il reconnaît avoir accordé des fatwas, avis juridiques, aux combattants, mais affirme qu'il a toujours refusé de donner des autorisations pour des opérations suicides. Après les destructions du quartier général israélien de Tyr, revendiquées par une organisation inconnue, la plus grande opération de Hezbollah a lieu le 18 avril 1983 à Beyrouth. Au début de l'après-midi, un camion chargé d'explosifs explose dans l'enceinte de l'ambassade américaine. Le bilan est de 63 morts, dont 17 Américains. L'équipe de la CIA pour le Moyen-Orient est décapitée, avec en particulier la mort de Richard Hems, l'ancien partenaire d'Ali Hassan Salamé et proche conseiller de Schulz. L'ambassade située à Beyrouth-Ouest était particulièrement vulnérable. Jusqu'en juin 1982, elle avait bénéficié d'une protection occulte et efficace des Palestiniens de l'OLP et des Druzes du PSP. Les mesures prises couvraient le danger des voitures piégées garées à proximité, mais non d'un véhicule forçant l'entrée avec un conducteur prêt à se sacrifier. L'attentat suicide a été immédiatement revendiqué par l'organisation du djihad islamique, prête-nom de Hezbollah clandestin. Vous voyez ce qui reste de l'ambassade américaine sur la photo. L'administration Reagan multiplie les déclarations affirmant que cet acte criminel ne la détournera pas de ses objectifs au Moyen-Orient, mais la perte de l'expertise de la CIA au Liban fait dépendre le renseignement américain des services israéliens, ce qui est une grave faiblesse. Un suspect employé à l'ambassade est arrêté par la police libanaise, torturé en présence d'un représentant de la CIA. Il implique la Syrie, mais Washington considère que la preuve n'est pas concluante et qu'il faut continuer de traiter avec Damas. Et je pense que vous continuerez à traiter avec moi, mais la semaine prochaine. Je vous remercie.